squelette, de guitare.
J'ai vu votre expo.
Un hommage un peu au
mobile.
Ah, très bien. Bah, c'était un petit extrait de cette série.
Oui, oui, tout à fait.
C'était un peu plus large dans le livre.
Oui, on voit qu'il y a une citation de Christophe, bien entendu.
Ouais, mais lointaine.
Plus que mot bleu, c'est Blue Notes, qui a à faire quand même avec le jazz et le blues.
Ouais, ouais, ouais.
Et moi, je pensais qu'il y avait deux façons de prendre ton livre, en fait, de lire ou de rentrer en relation avec lui. La première peut être assez dénotative en feuilletant juste les pages, en regardant le flux d'images que tu as. Que tu as produite pendant le confinement à Saint-Tropez.
Ouais.
Donc on peut se dire que tiens, une espèce de légèreté comme ça, des instants, du moment, de la couleur, de la façon de se situer dans cette temporalité-là, qui est un peu un temps hors du temps, puisqu'on était tous dans le confinement à ce moment-là. Sauf que toi, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton kilomètre, etc. Est-ce que tu as réussi à ouvrir un périmètre qui était suffisant.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux, on était bloqués à Paris, le confinement, petits appartements. Moi, j'avais à l'époque une petite fille de 5-6 ans. On étouffait littéralement. Et puis, tu sais, le premier confinement, la mort de Christophe nous a tous marqués. Au moment du Covid, enfin, il y a une sorte d'alerte comme ça, du fait qu'il y a un type de la nuit, un dandy, un être de lumière, à la fois de lumière et de nuit lumineuse, disparaissait. Paris Match a dit le dernier des dandys, quoi, et mort. Ça a été comme une... Ça nous a tous glacés, les gens un peu du rock. Et donc, le lendemain, Audrey, qui était sa maquilleuse, compagne, amie au long cours, m'appelle en me disant, mais venez. Et on étouffait littéralement. Elle me dit, je te rappelle demain matin. Et le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit, écoute, mes parents ont un studio qui ne loue pas, car tout s'est arrêté, c'est le confinement. Si vous voulez, on vous accueille. Il n'y avait plus... on a pris Unica, on a tracé, on a pris la bagnole et on est descendu. Et on a vécu 2-3 mois grâce à Audrey. Parfois, en montée, enfin, je ne sais plus exactement. Pendant le confinement, à Saint-Tropez, enfin, juste à côté, quoi. Et j'ai commencé à photographier.
Mais avec une idée précise en tête ou en te laissant aller une forme d'inspiration un peu un peu
rabatienne. Déjà, on est retourné finalement. Un peu, mais sans le faire exprès, sur tous les lieux où on allait avec Christophe. Quand il m'avait invité à bosser sur son bateau, à écrire, à méditer, parce qu'il avait un concept, c'était vivons, c'est comme ça qu'on écrit, c'est comme ça que Bachung et puis, comment il s'appelait, pas Lanzmann, Bergman, bosser, il vivait avant tout, avant de travailler. Donc, en fait, c'était une sorte de vacances studieuses et on échangeait sur plein de thèmes. Enfin bref, quand il est disparu, sans faire exprès, on est allé, on est retourné sur les lieux. Donc, j'ai commencé à photographier, à méditer. C'était une période quand même très, très noire de nos vies à tous. Et donc, j'ai commencé à photographier. Saint-Tropez était complètement fermé. Tous les bars étaient... Il y avait des grilles chez Sénéquier. J'ai fait un premier petit ouvrage aux éditions de l'air qui s'appelait Saint-Tropez sous la pluie. Donc, c'est un Saint-Tropez blues, quoi. Comme tu dis, note bleue. Très à l'opposé du bling-bling, du côté solaire. Etc. Moi, j'aime aussi les villes sous la pluie. Et donc, j'ai trouvé... Grâce à cette espèce d'arrêt, une porte d'accès à Saint-Tropez. J'ai commencé à photographier. Puis après, en grattant, j'ai commencé à lire des livres. Je me suis rendu compte de choses qui me passionnaient. Notamment une sorte d'aimantation sur cette baie des Canebiers où on allait avec Christophe, mais sur son bateau. Une sorte de chemin du littoral qui est le dernier périmètre, le dernier espace qui n'a pas été spolié par les milliardaires qui ont tout acheté dans le coin.
C'est devenu un supermarché à ciel ouvert, de luxe. Hein.
Ouais, c'est un horrible. Petit sentier magnifique, talqué de blanc, qui longe pas mal de villas hyper chic, mais qui longe aussi la Madra, qui est une sorte d'arche de Noé de Bardot. Ça roucoule, il y a des... Je sais pas comment dire, c'est un lieu magique pour moi. Et puis j'ai rencontré un ami qui habitait juste à côté de chez Bardot, où je suis pas mal allé. C'était un ami très littéraire, blanchotien, bataillien. On a eu de très longues discussions. Je me suis rendu compte qu'à 200 mètres ou 300 mètres de la Madrague, il y avait la Treille Muscate, la maison de Colette, qui est aussi un écrivain qui me fascine, qui a des pages rimbaldiennes, et dans les années 20, fin des années 20, elle écrit La naissance du jour, des textes d'une beauté folle, sur une sorte de pause comme ça, de renoncement, et sur ce bleu, la note bleue aussi, qu'elle appelle le bleu mental. Donc, c'était un peu, voilà, le confinement, il pleuvait parfois, etc. Mais le bleu était bien là, c'était un bleu psychique. C'était le drapeau de la liberté pour moi. C'était la couleur de la liberté. C'était l'oxygène dont on avait besoin ces années, cette chape de plomb qu'on traversait, quoi. Donc j'ai essayé de rendre hommage à cette idée du bleu mental. Et j'ai commencé à photographier ma femme, ma fille, mes amis, une amie qui est venue de Marseille, la fille du petit ami d'Audrey qui apparaît dans la série, toute notre histoire, notre propre histoire sur la baie. Et puis j'y suis retourné. Ensuite, la herse s'est levée et je suis retourné pour poursuivre cette série. Voilà. Et le truc aussi qui était joli, c'est qu'Audrey montait une petite galerie à Grimaud. Donc ça a été aussi un lieu où on a fait des rencontres, des soirées, je ne sais pas comment dire, on a créé des choses. On a ouvert une petite porte comme ça, créative. Et ce livre, c'est un peu le résultat de ça, de ces séjours, du confinement, de retour, de ma fille grandit.
Mais c'est comme
tout mon travail photographique, c'est un journal, mais c'est un journal un petit peu... le simple fait de sélectionner fait que c'est pas une mise à nu, c'est une manière de rêver sa vie aussi, je sais pas comment dire. Je crois que je ne fais qu'une seule série photographique. J'ai jamais relié parce qu'à chaque fois, il y a des pics. Par exemple, dans là, je suis concentré. Puis après, ça devient une exposition. Puis après, ça devient un livre. Mais finalement, c'est des pages arrachées d'un journal continu qui est ma vie mentale aussi, ma vie psychique. Alors c'est aussi là ce que j'ai oublié de te dire. C'est cette baie des canoubiers, parce qu'on dit canoubiers, les tropéziens disent canoubiers, mais c'est comme la canebière. C'est le lieu du fauvisme. Donc j'ai pris les fauves aussi, en pleine face, à Saint-Tropez. C'était le lieu du pointillisme, Signac notamment, était habité là-bas, s'est installé là-bas. Il y avait des élèves à Paris qui sont venus le voir, ils sont tous descendus, dont Matisse, etc. Sauf qu'il y a eu une sorte d'illumination pour Matisse dans cette baie où il a fait le fameux tableau Luxe, calme et volupté en hommage à Baudelaire. Ils étaient tous les fauves, c'était tous des anards qui rêvaient d'un âge d'or, d'une libération. C'est pour ça que cette série parle de cette idée aussi. C'est pré-Woodstock, c'est pré-hippie, d'où les baigneuses nues, les femmes nues, une grande recherche de pureté, comme ça, de liberté, de corps nu, ce que va être Saint-Tropez finalement des années après, des décennies après. Et donc, voilà, j'ai aussi humé cette espèce d'air fauve, d'où la justification des nues, des baigneuses qui traversent mon lit, qui ne sont pas là gratuitement. Ils sont là pour rappeler que la libération des corps, le fauvisme, une vision édénique, un peu utopique sans doute, de la vie. C'est ici que ça a commencé en partie. Tu vois ? Et donc Matisse, quand il est chez Signac, il fait ce tableau, et ce tableau, il explose le pointillisme, si tu veux. Le côté très scientifique des toiles, il en fait, c'est très violent, c'est assez violent cette toile-là. Et après, il va partir avec Ouliour, et là, ça y est, paf, le fauvisme est lancé. Mais il y a aussi Manguin, que j'aime beaucoup, qui vivait là-bas, qui lui aussi peignait sa vie, sa femme, ses enfants,
Bonnard.
La lumière. Bonnard est un peu plus loin, il est au Canet. Mmh. Mais c'est comme ça, une sorte de... C'est l'intime aussi.
Oui,
revendication de l'intime comme lieu, comme source d'inspiration. Voilà, donc je suis dans une... Non pas une lignée, mais dans une mémoire, une réminiscence de ces années-là.
Alors moi, j'avais pensé à quelque chose de effectivement de cette liberté qui s'exprime à travers la, la délinéation de, des pages, hein, finalement.
Ouais.
Et peut-être du côté tonal, c'est-à-dire dans une, la tonalité du blues, c'est une demi-mesure en moins, si je veux. Et donc, il y avait une forme de précis comme ça dans, dans le fait de feuilleter ce livre et d'être emporté par une espèce de chant, finalement, sur un ton décalé avec un demi-ton en dessous qui restitue un peu cette promenade, cette promenade en fait en toi et dans, dans tout ce qui organisait ta vie à ce moment-là, c'est-à-dire une recherche d'équilibre et de libération.
Ouais, ouais, mais écoute, ça c'est. Parce qu'il y avait, j'avais, c'est marrant, parce que moi j'avais pas. Parce que Blue Movie, c'est un titre d'un film non tourné qui avait été écrit par Terry Southern, qui a été aussi le co-scénariste de Barbarella, de Roger Vadim. Et j'aimais cette idée d'absence de film non tourné. Ça devait être un des premiers films érotiques dans les années 70, produit par Hollywood et qui devait être tourné par Kubrick. Donc c'est un truc utopique aussi. Donc chercher un nom avec le bleu, chercher l'idée comme ça. J'ai donc récupéré ce, ce titre que je trouve magnifique, qui est en fait le titre des films X aux États-Unis. Le Blue Movie, c'est le film pornographique, les premiers films pornographiques avec scène. Donc il y a un jeu comme ça, un petit clin d'œil,
il y a l'érotisme. Un renversement en même temps.
Il y a un renversement, ouais. Mais tu peux l'entendre comme le blues. D'autant que quand tu me dis ça, j'ai fait ce livre qui s'appelait Mexico City Vals, qui détournait aussi le titre de Kerouac, Mexico City Blues. Mais j'avais mis Vals à cause du côté latin, ternaire des Mexicains. Donc voilà, ouais, c'est dans cette ligne. Peut-être, je m'occupe du monsieur qui veut signer. Qui est parti. On a perdu un client.
On a perdu un client, zut.
Attends, je vais aller le chercher.
On fait une pause. Oui, oui, merci, merci, merci.
Parce que je venais de faire un livre sur Dylan, Dylan in absentia. Et donc je croise Juliette Offenberg, la fille de Mason Offenberg, qui s'intéressait à mon livre sur Dylan, qui est en train de le lire et tout. Et il se trouve que Mason, c'était un des. Comment dire, des maîtres de Dylan, de Bob Dylan au tout début, qui a fait des liens. C'est lui qui a permis à Burroughs de publier Le Festin Nu à Paris, etc. Et c'était l'ami de Terry Southern qui a écrit le scénario Blue Movie. Donc tout se tenait, tu vois. Et Terry Southern était le co-scénariste de Barbarella de Vadim. Et moi, j'étais vraiment près de la madrague et Dieu créa la femme. Donc c'est que des petites réminiscences, des liens comme ça. D'où le titre. Qui me permettait d'éviter Saint-Tropez et en même temps d'exprimer le bleu. C'est aussi, c'est pas, y a aussi, c'est aussi le lieu où a vécu Colette. Colette, l'écrivain Colette, la naissance du jour. Et elle, elle définissait le bleu méditerranéen comme un bleu avant tout psychique. Et moi, j'ai vu Saint-Tropez sous les trompes d'eau. J'ai fait un autre petit livre qui s'appelle Saint-Tropez sous la pluie. Les éditions de l'air des livres. Voilà, tout est. Une manière de jongler quoi, avec des images, des mots, des réminiscences. Des...
Génial, bah, je vais nous plonger
des
dans
amis, des fantômes d'amis. C'est la vie, quoi, pour moi.
Oui, où tout se mélange.
Je m'applique pour répondre parce que, comme Pascal, il enregistre, on fait tout en même temps.
Ouais. Hein, tout se mélange, tout ça s'imprègne aussi. Et tout diffuse.
C'est
une espèce de situation très particulière du récit photographique dans une énonciation qui. C'est assez volubile comme un film, hein, un peu inconscient,
ouais,
et
ouais.
Qui s'organise autour de, bah, de ces secrets qui transitent finalement dans l'éther, donc dans la communication avec les mondes.
C'est ça, c'est l'ambition, c'est la, comment dirais-je, la, l'utopie de ce genre de travail. Parce que moi j'ai toujours l'impression que la photo va m'emmener quelque part, va me faire comprendre quelque chose de ma vie. C'est pas tellement, je cherche pas la bonne image, je cherche une sorte d'émotion. C'est sur le chemin d'un rendez-vous que je vais faire une bonne photo, une photo sans intérêt, et qui va m'exprimer pour moi. Après j'espère le pouvoir le partager, c'est, ça c'est autre chose.
Oui.
D'où après la mise en page, les réflexions
oui,
qu'on a avec André.
Ça se rapporte aussi à une forme d'événement ou de sentiments intérieurs. De...
C'est la magie de la photo.
Voilà. On se dit et tout d'un coup, on décrypte quand même le visible dans l'invisible. Donc,
c'est possible. Enfin, je crois, j'ai beaucoup cru à ça.
Ouais.
Je crois un tout petit peu moins avec l'avalanche d'images. Mais des fois, je revois mes premières séries, des fois, c'est rien du tout. Je me dis, mais pourquoi tu as gardé cette photo? Et finalement, elle m'exprime tout un monde, toute une époque. Bon, voilà. C'est un peu ça le critère de choix, c'est que ça exprime un truc. truc inexprimable. Enfin,
oui, même. Ça évoque un moment.
Un moment, un air.
Une odeur.
Un air, un truc mental, un peu, je sais pas comment appeler ça. Et justement, c'est parce que c'est pas défini. Le définir, tuer, quoi. Définir ce genre de. C'est enfantin, peut-être aussi.
L'image se suffit à elle-même.
Alors moi j'ai une petite théorie là-dessus, c'est qu'en même temps tu évoques un temps très particulier qu'est l'Aïon, c'est-à-dire un temps, un temps présent éternel dans un rapport à ce qu'on vivait dans l'enfance, qu'on perd à jamais mais qu'on retrouve dans des petites épiphanies comme ça et à travers laquelle l'appareil photo, enfin, la prise d'image est une espèce de sollicitation de ces moments où on fait un avec ce qui nous entoure.
C'est bien possible, mais là tu vas plus loin que moi. Je n'aurais pas à définir, mais ça peut être ça. Il faut que ça reste un peu indéterminé, un peu flou. Bien que là, il y a beaucoup de nets dans ce bouquin. J'ai beaucoup d'images très nettes. Mais
c'est vrai. Je ne
sais pas pourquoi. On m'a fait le reproche, on a dit « Ah, mais c'est moins ton style. » Mais non, j'ai toujours fait du net, autant que du flou. Je crois que... J'aime bien ne pas m'arrêter quoi, à un style ou à un type d'image. Je crois que je peux tout photographier et n'importe quoi. Et
oui, parce que c'est le domaine de l'expérience vécue.
Peut-être, je sais pas.
Et donc, si on devait citer un cinéaste en rapport ou deux, entre Wenders et qui peut-être ?
Tous ? Non, c'est pas un... Non, mais il y a eu des maîtres comme Bernard Plossu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas dit... Ça, je me suis battu jeune. C'est ce que tu payes très cher parce que pour ne pas définir de territoire, ne pas dire je fais des photos de tel truc, des portraits, ou bien du nu, ou bien des paysages, ou bien des natures mortes, ou bien. Je me suis dit non, tu feras tout, des portraits, des nus, des paysages, des natures mortes. Et finalement, ça sera ta vie. Ta vie, l'objet de la quête. Tu vois, c'est pour ça aussi que la mentalisation c'est un truc très très important pour moi dans la photo. C'est pas uniquement ce que j'ai devant les yeux, c'est ce que j'ai derrière la tête que j'essaye de montrer. Ça je l'ai compris il y a 2-3 ans.
Et quel rapport avec la musique, la composition, Moi je trouvais que c'était un album assez musical en fait, mais dans une musique qui s'écoute d'une certaine façon. Qui n'est pas qui est discrète, comme une espèce de comment je pourrais dire de balade monquienne, tu vois.
Ouais, mais t'as vu, j'avais
dit atonal aussi.
J'avais fait une sorte de micro, surtout pas rétrospective, mais j'avais joué avec des vieilles photos chez Polkia. Ma première expo s'appelait Reverb. L'idée d'un son comme ça qui revient. Je réfléchis pas mal à ça en ce moment aussi, à l'idée de. Puis j'avais fait un livre qui s'appelait Fading aussi. Comme un fait d'un. Mais il n'y a pas vraiment de lien. Je dirais que la photo est de plus en plus à côté de ce qui constitue ma quête. C'est bizarre. Hein.
Entre le
dans l'écriture, la chanson, c'est beaucoup plus concret.
Entre l'entendre et le voir, la composition.
Ouais,
donc
c'est moins central.
Tu serais presque bon pour faire un film, en fait.
Ouais. Je m'en approche un tout petit peu, sans aucune prétention, là encore, quand je fais mes clips. Parce que quand je suis parfois là sur scène, j'ai fait quelques concerts, même dans un cinéma cet été, où je projetais tous mes clips derrière moi, que j'ai tous réalisés ou co-réalisés, ça raconte un truc. Et ça m'intéresse de plus en plus. Mais je fais ça par défaut, il n'y a pas de calcul d'intention. Je ne me suis pas dit que je vais être cinéaste, je vais faire des films comme j'en suis. Et il faut que la photo, ça ne soit pas sérieux pour moi.
Absolument.
Pour qu'elle me... Le mec hyper bavard. Mais si c'est trop un truc sérieux, ça perd de son charme.
Oui, ça
doit rester en fait. Désinvolte. Là, j'étais content d'exposer avec l'Artigue, chez Polkia. Ça me plaît aussi, ce côté désinvolte. Bernard a ça aussi, Pessu, Robert Franck aussi. C'est pas un mépris du tout de la photo, c'est un amour de la photo, mais pas... de l'institution, de la photographie institutionnelle, des dossiers d'artistes, d'une carrière. Et tous les grands photographes que j'ai connus, de Willy Ronnie, ça... Ils avaient tous ce truc-là, d'être un peu rebelle, d'être un peu irrécupérable.
Voilà. Et heureusement.
Et ça, des fois, il y a quelques images. Je fais exprès. Provoquer un peu le fine art, entre guillemets. Tu vois. Là, on me dit, ah, mais Nico, c'est beaucoup moins subtil parfois que tes photos d'avant. Mais je le fais exprès parce que c'est insupportable, le sérieux photographique. Pour moi.
Je suis absolument d'accord avec toi.
Oui.
Merci Nicolas Command pour Blue Note aux éditions.
André Frère,
merci encore.
Merci Pascal.